Normalement, les sessions après-midi sont les plus dures. Mais pour notre Seigneur, le temps n'importe rien. Ce matin, je vous ai partagé une histoire de Jacob. C'était celui qui n'avait pas le flambeau dans ses mains, n'avait pas le relais dans ses mains. Il cherchait, il avait ce désir dans son cœur de trouver ce flambeau, de trouver ce relais. Et finalement, il a réussi après cette rencontre avec l'Éternel. Et cet après-midi, je voudrais continuer avec un autre monsieur dans l'Ancien Testament qui avait le relais dans sa main. Il était utilisé par le Seigneur, il était en train de faire son ministère, mais il avait des difficultés dans son ministère parce qu'il ne voyait pas la lumière à la fin du tunnel, si je peux le dire comme ça. Il était découragé. Très souvent, il disputait avec le Seigneur par rapport des choses qui se passaient dans sa nation. Il avait le relais, mais il pleurait, il ne savait pas quoi faire. Et vous connaissez bien que le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, est appelé le prophète pleurant, celui qui pleure devant le Seigneur, parce qu'il ne voit pas de changement de la situation. Et j'ai choisi un titre pour vous, parce que ça va vraiment nous aider pour considérer l'histoire de ce monsieur. Et le titre est « Le relais qui porte la marque « Made in Heaven », mais avec des résultats sur la terre ». Je pense que cette phrase « Made in Heaven », tout le monde le connaît. Quelque chose qui est produit au ciel, fait au ciel, mais qui fait des résultats sur la terre. Et j'ai choisi un texte qui n'est pas vraiment habituel, dans Jérémie chapitre 31, versets 25 et 26. Jérémie 31, 25 et 26. C'est un verset unique. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous dire, il passait par des moments difficiles, le prophète Jérémie. Il ne savait pas quoi faire, il ne regardait pas la génération, il ne voyait pas que la génération qui suivait va faire quelque chose, qu'il y aura un changement. Mais ce texte est très positif. Au milieu des problèmes qu'il avait avec l'Éternel, avec son ministère, il y a deux versets qui sont très positifs. Jérémie 31, 25 et 26. Car c'est l'Éternel qui parle. Il parle à Jérémie. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasirai toute âme languissante. Et après, Jérémie dit, le verset 26, là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. C'est un verset très positif parmi les chapitres qui sont vraiment négatifs. Et je me demande ce matin et cet après-midi, qu'est-ce que Jérémie a vu à ce moment-là? Parce qu'il a fait cette conclusion, mon sommeil m'avait été agréable. Le contexte historique n'était pas favorable. Le royaume du Nord, le royaume d'Israël, était déjà en exil. La plus grande partie de Juda, le royaume du Sud, était envahie. Les armées du roi Nebuchadnezzar approchaient de Jérusalem et l'entourait. Alors le contexte historique était très négatif. Aussi le contexte spirituel n'était pas favorable non plus. Le peuple pensait que Dieu les délivrera à nouveau de la main des ennemis. Alors il y avait beaucoup de prophètes qui proclamaient la paix sur la ville de Jérusalem. Jérémie était le seul, et je souligne cette phrase, le seul à connaître la destruction immanente de Jérusalem, parce qu'il n'était pas compris par son peuple. Il a connu une grande déception et un moment de son ministère était vraiment, vraiment terrible, qu'il voulait abandonner tout, il ne voulait plus continuer. Et dans ces ténèbres qu'on voit ici, des environnements très difficiles, Dieu a ouvert les yeux spirituels de Jérémie pour un moment. Et il a vu vraiment les intentions réelles du Seigneur sur son peuple. Alors, il a vu ce jour-là, je ne sais pas si c'était le matin, c'était la nuit, mais quand il a entendu la voix de l'Éternel, il a appris une chose qui est très importante dans sa vie. La première chose qu'on trouve dans cette phrase est que Dieu est accessible. Dieu est accessible. Je ne sais pas si vous avez pensé sur ce fait, mais c'est une chose qui nous ouvre la porte vraiment d'avoir accès vers notre Seigneur. Pendant de nombreuses années, des philosophes ont essayé de persuader les gens que Dieu existe, mais il est très loin. Je pense que pour ceux qui ont étudié le cours de philosophie, vous vous souvenez de cette école philosophique. Cette école, elle s'appelle l'école de déisme. Et je vous ai donné quelques détails. L'école de déisme, Dieu a créé l'univers, mais après, il ne s'en soucie plus. Il a laissé que l'homme développe ses affaires. Dieu est très loin. Et comme l'école de déisme nous dit, il est comme un propriétaire absent. Le monde lui appartient, mais il n'est pas là. Il ne travaille pas dans les affaires des hommes. Il est vrai que Dieu est transcendant. Nous le connaissons. C'est une vérité. La parole nous parle, il y a beaucoup de versets. Le prophète Ésaïe, il a vu vraiment la transcendance de l'Éternel. Il a vu vraiment la sainteté de Dieu, des séraphins, des créatures célestes. Et tout le monde disait « Saint, 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 l'Éternel des armées ». Tout le monde glorifiait l'Éternel. Il est transcendant. Moïse aussi, il voulait voir la gloire de Dieu. Vous connaissez cette histoire aussi dans l'Ancien Testament. Mais l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et quand même, ce jour-là, Jérémie se réjouissait. Il avait quelque chose dedans qui a changé le cœur de ce prophète. Ce n'est pas seulement Jérémie qui a vu que Dieu est accessible, que nous avons accès devant lui, qu'il est prêt de vraiment rafraîchir l'âme qui soupire après, auprès de lui. C'est le prophète Ésaïe, il a vu la même chose. En Ésaïe 55, versets 1 et 4, Ésaïe nous dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, dit l'Éternel, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. » Ce sont des paroles d'un Dieu qui est accessible, qui est prêt, qui veut venir auprès de nous pour nous aider. Ésaïe dit, « Viens et mange. » David, il a dit, « Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. » Jésus, il a aussi mis l'accent sur cet aspect de l'accessibilité de l'Éternel. Vous vous souvenez quand il a dit l'histoire de la veuve et du juge qui était injuste. Qu'est-ce que le juge a dit? Je vous ai mis des paroles. « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice. » C'est le juge injuste. Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisi et qui crient à lui jour et nuit? Le fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. » La même chose que nous voyons ici dans le Nouveau Testament que Dieu est accessible et disponible pour nous. Vous savez, quand j'ai préparé ce message, il y avait une pensée qui m'est venue, et que Dieu est le premier à avoir commencé le ministère des portes ouvertes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des portes ouvertes, les événements, notre école aussi, nous avons des jours de portes ouvertes lorsque les gens peuvent venir et voir des études, des cours, des professeurs. Mais je pense que l'Éternel était le premier qui a commencé le ministère des portes ouvertes. Regardez bien, la naissance de Jésus-Christ est un témoignage de l'accessibilité de Dieu. La croix est aussi un témoignage de cette accessibilité. La résurrection, la descente de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, est aussi un témoignage. Et nous avons beaucoup de versets qui nous parlent de tout ça. La deuxième chose que Jérémie peut-être a vue dans ce moment-là, lorsque l'Éternel a parlé, est que ce n'est pas seulement Dieu qui est accessible, mais aussi l'homme est accessible. L'un des plus grands ennemis de l'homme est son orgueil. Nous devons reconnaître que c'est difficile de travailler avec des gens orgueilleux, très difficile, parce qu'on sent vraiment comme une clôture entre nous et eux. On ne peut pas travailler avec eux. L'apôtre Paul nous donne vraiment une description des gens inaccessibles. L'Épître aux Romains, chapitre 1, je vous donne le texte ici. Les gens qui refusent de connaître Dieu. Je vais simplement vous lire le verset 32 à la fin. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Les gens qui ne sont pas accessibles, qui refusent vraiment de s'approcher vers Dieu. Le fils prodigue était inaccessible à son père quand il voulait sa part d'héritage et après il est parti. Mais ce jour-là, Jérémie a vu une autre chose, que l'homme peut être aussi accessible comme notre Dieu. Pour moi, l'équivalent, le verset équivalent dans le Nouveau Testament de Jérémie 31-25 est Matthieu 11-28, quand Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il est là. L'homme est une créature qui se trouve souvent dans un stade d'agitation, très souvent, à cause des circonstances, à cause des autres gens. Il y a trois éléments en nous, chacun de nous, qui sont touchés par ce qui se passe autour de nous. Le cœur. Le premier élément, le cœur. Jacques nous dit que le cœur est trompeur. On ne sait pas comment le cœur va décider dans de différentes circonstances. Le deuxième élément, c'est la conscience. Lorsque la conscience commence à vous troubler, il y a vraiment un problème. Et le troisième élément, c'est l'intelligence. C'est l'endroit où les doutes naissent constamment. C'est la partie de notre être qui est le plus exposée aux influences externes. Et maintenant, quand le Seigneur touche les hommes, il touche les trois éléments, le cœur, la conscience et aussi l'intelligence. Et nous avons une paix parfaite dans notre vie. Jésus a envoyé le Saint-Esprit aux chrétiens qui étaient accessibles. Vous connaissez Jean 14, 16, Jésus nous a dit, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Vous savez, le mot « consolateur » dans le grec pour le Saint-Esprit, c'est très difficile de traduire ce mot, soit en anglais, soit en français, soit aux autres langues, parce que le mot signifie beaucoup. Le mot « parakaletos » en grec, ça signifie l'avocat, intercesseur, consolateur, celui qui encourage, celui qui aide. Et on peut continuer avec les différentes traductions. Alors, le mot signifie aussi celui qui est appelé pour nous aider. Et comment le Saint-Esprit peut nous aider si nous ne sommes pas accessibles à lui? Comment il peut nous donner la sagesse? Comment il peut nous changer? Comment il peut nous transformer en image de Christ si nous ne sommes pas vraiment accessibles? La dernière chose que je voudrais vous montrer ici, ce que peut-être se trouve dans les paroles que Jérémie a entendues ce jour-là, et que la relation Dieu-homme est possible. Pas seulement Dieu est accessible, pas seulement que l'homme est aussi accessible pour être touché par l'Éternel, par le Seigneur, mais aussi il est possible d'avoir cette relation entre l'homme et Dieu. C'est le point qui est le plus important. Le plan de Dieu pour notre vie, ce n'est pas seulement de nous montrer son amour. Bien sûr, absolument, nous sommes conscients de son amour. Ce n'est pas seulement de nous montrer son pardon et sa miséricorde. Mais il veut aussi développer des relations avec nous. C'est ça, si je peux vous dire, qu'est-ce que ça signifie d'avoir le bâton, le flambeau dans ma main? Ça signifie que je cours avec le flambeau, je cours en ayant des relations avec mon Seigneur, avec mon Jésus-Christ qui m'a sauvé. Je cours avec cette conviction parce qu'il est avec moi. Et je voudrais vous donner brièvement quelques détails de développement que le Seigneur fait dans nos relations avec lui. Si la relation Dieu-homme est possible, qu'est-ce qu'il fait de nous? Qu'est-ce qu'il fait avec nous quand nous sommes en train de courir et communiquer avec lui? Et l'exemple pour moi, qui est un exemple excellent, est qu'est-ce que Jésus a fait avec ses disciples? Il est très intéressant de voir la progression de la vie des disciples de Jésus-Christ. Premièrement, ils ont été ses sympathisants. Ils n'étaient pas encore des disciples. Pierre, Jean, Jacques et les autres, comme vous voyez dans le Nouveau Testament, ils étaient ses sympathisants. Il leur dit, « Suivez-moi. » Vous connaissez bien l'histoire. Quand Simon-Pierre est venu, il dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Philippe dit à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » D'abord, ils ont commencé à ce stade-là, simplement d'être ses sympathisants. Mais ce n'était pas la fin. Puis, on trouve qu'ils sont devenus ses disciples. Après avoir passé par le stade sympathisant, alors ils sont devenus ses disciples, c'est ainsi qu'il les appelle. Jésus a posé la question suivante. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Regardez, un homme peut être membre de sympathisant du groupe de Jésus, mais ça ne signifie pas qu'il a des relations intimes avec Jésus. Alors, de ce stade, ils sont devenus ses disciples. Pourtant, il y a une autre étape. Après, ils sont devenus ses serviteurs. Luc 17, 10, Jésus dit, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » C'est un pas en avant. Le serviteur est celui qui a été formé pour faire certaines choses et sert ensuite en retour. Leur maître leur avait donné le pouvoir de prêcher l'Évangile, chasser les démons, et ils étaient très heureux de ça. C'est une bonne position, c'est une position bénie d'être le serviteur. Et quand même, il avait encore quelque chose. Puis ils sont devenus ses amis. Jean 15, 15. À la fin de sa vie, Jésus a dévoilé à ses disciples une relation encore plus intime. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Regardez ce que Jésus a dit. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que, fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous regardez, vous remarquez la progression que le Seigneur a fait avec ses disciples. L'ami partage vraiment de la familiarité de son ami. Il peut être avec lui et on se partage de secrets même. Et c'est Jésus qui a élevé ses disciples sur cette stade. Finalement, on trouve que ce n'était pas la fin. Finalement, à la fin de son ministère, il a fait de ses compagnons de table et ses apôtres. Encore, on trouve une autre stade. L'heure étant venue, Luc 22, 14, il se mit à table et les apôtres avec lui. C'est le titre qu'on voit ici. Nous voyons Jésus et les apôtres assis à la même table, en train de manger, boire et partager une communion ensemble. Vous savez, dans le monde, dans le contexte du Nouveau Testament, être assis à la table et manger avec quelqu'un, ça signifiait une communion ultime. Une communion ultime. S'il y avait des étrangers qui venaient dans la maison, le monsieur qui les acceptait avait cette responsabilité de les garder dans leur maison et d'ouvrir la maison pour eux. Et d'ouvrir même tout ce qu'il a, au moins pour 3 jours. C'était la règle à l'époque. Et pour voir pour leur nourriture et tout. Et à l'époque, ça signifiait vraiment une communion ensemble, intime. C'est pourquoi quand Jésus dit dans le livre d'Apocalypse que quand il frappe à la porte, si quelqu'un ouvre la porte, il va entrer. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? Et il va dîner avec nous. Très souvent, je dis, Jésus n'était pas italien, mais quand même, il utilisait vraiment la table comme un moyen de communion fraternelle. Je sais qu'il y a peut-être des gens italiens ici. Mais c'est la communion intime. Ils sont devenus ses apôtres. On trouve aussi le livre des Actes qui commence avec le titre « Les apôtres de Jésus ». Luc, il a écrit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, regardez bien, aux apôtres qu'il avait choisis. » Dans le livre des Actes, les disciples ont commencé leur ministère déjà comme des apôtres. Parce que Jésus a fait une transformation dans leur vie. Alors, ça signifie que quand nous avons cette communion, Dieu-homme, ensemble, le Seigneur est en train de faire un travail de progression en nous. Je voudrais vous demander une question très simple. Quand vous regardez votre vie spirituelle, depuis le temps lorsque vous avez accepté Jésus-Christ pour votre Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous trouvez une progression dans votre vie personnelle? Comment vous avez commencé et où vous êtes aujourd'hui dans votre vie spirituelle? Est-ce que le Seigneur est en train de développer quelque chose? Je ne dis pas que nous devons devenir des apôtres, pas du tout. Mais je trouve cet exemple vraiment biblique qui nous donne une idée comment le Seigneur travaille avec les gens. Il les prend tels qu'ils sont et après il les change. Je ne peux pas rester avec Jésus seul et le même quand j'ai été sauvé et aujourd'hui c'est différent. Il y a des années dans ma vie, 40 ans dans ma vie, je suis dans la foi. Je suis le Seigneur. Est-ce que je suis le même quand j'ai accepté le Seigneur, ou est-ce qu'il y a une grande progression dans ma vie vers la maturité? Alors, la question arrive ici. Qu'est-ce que nous allons faire avec la communion que nous avons avec Jésus chaque jour? Est-ce que nous sommes des gens accessibles? Est-ce que nous sommes des gens qui vraiment aspirent de voir son œuvre dans notre cœur, dans notre Église? Est-ce que notre Église est accessible à ce que le Seigneur a préparé pour nous? Est-ce que nous sommes là pour vraiment dire, Seigneur, me voici? Regardez l'exemple que je vous ai donné ce matin avec Jacob. Il n'était pas accessible, il avait des bénédictions, il avait des promesses, il avait tout. Mais quand même, dans son cœur, il était toujours Jacob. Et la volonté du Seigneur était pour qu'il puisse devenir Israël. De ne pas rester Jacob, mais devenir Israël. Quelqu'un qui sera le patriarche. Et c'est la même chose avec nous. Est-ce que nous possédons beaucoup de choses, un héritage spirituel, grand héritage spirituel? Je suis troisième, quatrième génération dans le ministère. Mon père, mon grand-père et les autres étaient serviteurs de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ça. Mais maintenant, c'est mon tour. Est-ce que je suis accessible? Quand le Seigneur me parle, nous avons chanté la chanson, est-ce que je dis oui, Seigneur? Ou est-ce que je ferme mon cœur et j'attends que le Seigneur fasse quelque chose d'extraordinaire pour que je change? C'est très important dans notre vie de dire, Seigneur, je suis ouvert. Parce que quand nous sommes accessibles, mes amis, c'est dans ce moment-là que nous tenons le relais dans notre main. Le Seigneur ne partagera jamais le relais avec les gens qui ne sont pas accessibles. Une fois, j'ai prêché dans une convention en Belgique, il y a plus que 25 ans déjà, et le sujet de cette convention était « Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. » Et j'ai préparé le message sur ce sujet-là. On m'a demandé de prêcher sur ce sujet-là. Et je me souviens, quand j'ai été en train de prier devant le Seigneur, de bénir les messages. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Et je me souviens comment le Seigneur a parlé dans mon cœur quand j'étais en train de préparer les messages. C'est comme j'ai entendu la voix, Joseph, si tu veux plus de moi, moi je veux plus de toi. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Oui, il est prêt, il est accessible. Il va nous donner ça. Mais on peut avoir plus de Dieu dans notre vie quand il a plus de moi, quand il a plus de vous dans sa main. Vous savez, finalement, ce que je peux dire est le relais, c'est moi-même. Le relais, c'est moi-même. Est-ce que le Seigneur me tient dans sa main? Est-ce qu'il m'utilise? Est-ce que le Seigneur utilise un Joseph qui est brisé? Un Joseph qui est ouvert pour le travail du Saint-Esprit dans son cœur? Est-ce que le Seigneur est là pour travailler avec moi? Est-ce qu'il a une progression dans ma vie depuis le temps quand je l'ai accepté? Et le temps, aujourd'hui, le relais, c'est moi. Le relais, c'est vous. La question est, où se trouve le relais aujourd'hui? Avec une telle grande pression, Jacob a été transformé. Jacob a été changé. Et Jacob est devenu le troisième patriarche. Il est devenu le relais pour le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi, mes amis, aujourd'hui, l'Éternel, il n'a pas honte de lier son nom avec le nom de Jacob. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais aussi le Dieu de Jacob. Imaginez-vous, l'Éternel décide de lier son nom avec quelqu'un qui était trompeur, avec quelqu'un qui avait un grand potentiel dans sa vie et qui manquait des choses, et avec une grande puissante transformation, le Seigneur l'a changé et Jacob est devenu accessible. Je voudrais vous donner un devoir. Lisez, quand vous allez dans votre maison, lisez l'histoire de Jacob après Peniel, après le temps de son changement jusqu'à la fin de sa vie. Et vous allez voir un homme très doux, un homme très proche de l'Éternel, un homme qui sait comment pleurer et un homme qui sait comment se réjouir, un homme selon le cœur de Dieu. Jérémie était très découragé ce jour-là. Jérémie ne savait pas qu'est-ce qu'on va faire en Israël. Comme je viens de vous dire, le contexte historique n'était pas bon, le contexte spirituel n'était pas bon. Il cherchait des relais pour l'Éternel et il pleurait. Mais en ce moment-là, l'Éternel, il a dit, « Mais c'est ma souveraineté. Je vais satisfaire les gens qui sont ouverts. L'âme qui a soif de moi, l'âme qui me cherche, je suis là pour donner, pour verser mon esprit, je suis là pour bénir l'âme qui a soif de moi. » Est-ce que nous avons soif aujourd'hui pour notre Seigneur? Il est là. Venez, il dit, venez à moi. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne toutes ces choses. Je voudrais terminer, vous dire que si nous avons besoin de l'Éternel dans notre vie, de Dieu dans notre vie, mes amis, n'oubliez jamais qu'il a besoin de vous aussi. Il a besoin de vos prières. Il a besoin de votre volonté de faire quelque chose pour lui. Il a besoin de votre volonté d'aller dire quelqu'un quelque chose de l'Évangile. Il a besoin d'aider les gens qui sont dans le monde, ce monde qui est si sombre aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de son Église. Et finalement, n'oubliez pas que le relais, c'est vous. Le relais, c'est moi. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour cet exemple dans ta parole. D'abord, nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons accès auprès de toi. Merci pour Jésus-Christ que tu as envoyé. Et aujourd'hui, nous avons cet accès, Seigneur, devant toi. Nous avons cet accès, nous te trouvons chaque jour comme un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui nous bénit chaque jour. Seigneur, nous te remercions aussi parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Et nous avons dit oui dans notre vie à te suivre, Seigneur. Nous te remercions aujourd'hui parce que nous avons cette relation avec toi. Mais comme nous avons entendu la parole, tu veux plus que cela, Seigneur. Tu veux développer les relations intimes avec nous, les communions profondes avec nous, Seigneur. Et nous sommes là cet après-midi te dire, nous sommes prêts. Nous voulons être et devenir une génération fidèle. C'est notre désir de te suivre, Seigneur, comme une génération fidèle. Chacun de nous, Seigneur, les dirigeants, les anciens, les pasteurs, les évangélistes, les gens qui sèment la parole, mais aussi les gens dans l'Église, les plus petits membres du corps de Christ, que chacun de nous est valable devant toi, Seigneur. Que chacun de nous a cette possibilité de développer des relations intimes avec toi. Et tu es là. Seigneur, nous te prions cet après-midi que tu nous parles avec ton Saint-Esprit, avec la voix de ton Saint-Esprit dans chaque cœur, dans chaque âme, et que nous sommes prêts à te suivre parce que tu es là de bénir le monde à travers de ton Église. À travers ton Église, à travers tes enfants, à travers moi, à travers mes frères et mes sœurs, Seigneur. Nous sommes tes relais. Utilise-nous, Seigneur, pour ta gloire, chacun de nous. et à la fin, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit connu partout, Seigneur, parce que tu as une église qui est là comme un pilier de la vérité, comme un pilier de la justice, ton église qui est ton instrument pour changer le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.